Conforta.
Pour une petite dernière cette année, donc Accès libre du 23 en direct et du 30 en différé. Un moment donné, hein? Faut ce qu'il faut. Monsieur La Liberté, bonjour.
Allô.
Il me reste... on a une petite émission à faire après celle-ci, toi et moi, et on verra... T'as-tu fini après?
Je pense que oui. Ben, en tout cas, la partie studio, la partie... Ben, il fait tellement chaud en studio,
vrai,
là,
il fait toujours chaud dans la régie et en studio. Aujourd'hui, on se casse pas le bécic, mais je pense que c'est une des premières fois, en tout cas, qu'on fait ça. On va essayer de passer beaucoup, 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 beaucoup de temps sur la déficience visuelle avec un petit retour. Un petit retour sur ce qui a touché l'association du côté de Québec. Je pense à Véronique Vizina, qui est directrice du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03. On va parler un petit peu des autres, mais je leur ai demandé à Véronique, Antoine, Alexandre de mettre beaucoup d'accent sur le handicap visuel et 2019. Antoine, mais c'est le Antoine Perrault, qui est directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Et le Alexandre, c'est le Alexandre Bellemare, qui est souvent chroniqueur chez nous, qui est responsable du soutien technique chez Canadialogue. Madame, messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, Véronique, sa voix va être facile à rejoindre. C'est celle qui a l'air longue distance. C'est celle qui dit poteau au lieu de poteau. C'est le seul élément qui nous aide à distinguer Véronique des deux autres. Alexandre est en studio.
J'espère qu'on ne parlera pas de poteau aujourd'hui.
Non, ça dépend de vous autres. Ça dépend de vous autres. Alexandre est en studio et Antoine, c'est celui qui est au téléphone de Montréal. Monsieur Perrault, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, merci. J'avais envie qu'on, en terminant l'année comme ça, qu'on regarde un petit peu les bons coups, les moins bons coups, les coups qui restent à être frappés côté handicap visuel, puis on va pouvoir un peu dévier. Et je pense qu'on pouvait pas, même si on parle beaucoup d'accessibilité et d'enjeux, j'avais pas envie, moi, de passer à côté des enjeux technologiques parce que, on dira ce qu'on voudra, là, mais c'est ça, je trouve, qui nous aide le plus à avancer concrètement dans un quotidien facilitant. Et c'est pour ça que je voulais qu'Alexandre soit là. Juste savoir, tiens, Antoine, t'as à peu près combien d'éléments pour qu'on essaie de voir comment on s'organise?
Combien d'éléments que je vais apporter sur ce qui a bien été cette année?
Ce qui a bien été, ce qui a mal été. Disons, t'as combien d'éléments sur ta petite feuille?
Un, deux, trois, quatre. 5, 6,
okay.
Je n'ai 7 à peu près.
Parfait. Alors, on a du temps et on a du contenu. tiens, commençons par... je sais que M. Labon n'aime pas ça, là, mais disons la vieille capitale. Véronique, tiens, commençons par le positif. J'ai envie, là. Donne-moi un élément positif chez vous en 2019.
Ben, je vous dirais, le premier élément positif, je l'associerais au réseau de transport de la capitale, qui est notre service de transport en commun, qui a adopté cette année son plan de développement sur l'accessibilité universelle, qui inclut énormément de travaux et d'actions qui vont être posées pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Je pense entre autres aux difficultés là, qui sont vécues depuis quelques années avec l'assistance sonore qui existe dans les autobus et aux arrêts, les cheminements, l'identification des zones d'arrêt des autobus. Le réseau de transport a pris énormément d'engagement dans son plan d'action et a 5 ans là, pour maintenant le mettre en œuvre, mais on est très, très, très contents des résultats qui sont obtenus puis des engagements qui ont été pris par le réseau de transport pour faciliter l'utilisation du transport en commun par les personnes qui ont une déficience visuelle. Et parallèlement à ça, je peux pas faire fi du réseau structurant qui s'en vient, du fameux tramway, où il y a des engagements qui ont aussi été pris pour assurer l'accessibilité, notamment aux personnes qui ont une déficience visuelle. Et on va tout regarder la question du braille urbain pour faciliter les déplacements des personnes handicapées visuelles autour du réseau structurant.
C'est quoi ça, du braille urbain? Parce que j'en ai vu sur les... je n'ai pas vu, mais j'ai lu là-dessus pour ce qui est des arrêts d'autobus à Vancouver. Et je me demande vraiment à quoi ça sert, sinon que ça nous dit que c'est un arrêt d'autobus, là. Mais chez vous, tu penses à quoi quand tu parles de braille urbain, Véronique?
Quand on pense de braille urbain, on va penser de... De façon de s'aligner, par exemple, pour une traversée avec des indices tactiles.
Okay.
On peut parler de plaques podotactiles.
Okay,
on peut,
okay, okay.
Autant pour
du
l'arrêt
relief.
Que pour identifier. C'est beaucoup des choses qui sont en relief, mais c'est souvent aussi des choses qui font partie du mobilier urbain régulier,
ouais,
et qui sont pas nécessairement des ajouts qui sont faits dans les cheminements.
J'espère que chaque fois que vous vous couchez à Québec, vous nous remerciez avant de vous coucher pour le tramway et l'argent que Montréal vous a donné.
Ah, c'est certain, on y pense à chaque fois, puis c'est sûr qu'on vous en redonnera un jour.
Super, j'aime ça. Antoine, un dossier positif, selon toi, en 2019, aux yeux du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec?
Je pense qu'un des beaux dossiers qu'on a eu, c'était le dossier de la vidéodescription. Qui a très, très bien terminé. Donc, je vous rappelle, parce que le milieu a quand même été très mobilisé autour du dossier, mais le CRTC a mis en place une condition de licence qui obligeait les grands télédiffuseurs à diffuser de la vidéodescription aux heures de grande écoute à partir du 1er septembre 2019.
Ouais.
Et ça l'avait été contesté. Donc, ça a été, mon Dieu, quasiment un an de discussion auprès du CRTC, d'envoi de lettres, de revendications pour dire « non, non, c'est absolument important ». En fait, la contestation, c'était de dire que, c'était de proposer que plutôt que ce soit toutes les émissions après le 1er septembre 2019, ce soit les émissions qui ont été produites après le 1er septembre 2019 qui incluraient de la vidéodescription. Pour nous, c'était pas acceptable, donc on a revendiqué, on a fait des représentations et on est content de vous dire que très récemment, le CRTC a rendu sa décision et la condition de licence était maintenue comme elle était à l'origine. C'est-à-dire que depuis le 1er septembre 2019, les grands télédiffuseurs sont tenus d'offrir de la vidéodescription aux heures de grande écoute sur certains types d'émissions.
Un gros, gros plus, en effet. Je n'étais pas câblé tout l'automne. Je viens de m'acheter une antenne. Comment se fait-il que District 31 n'est pas en VD?
C'est
écoute,
une grosse question.
C'est 1 500 000, c'est après 19 heures, c'est pas en VD. Moi, c'est une des raisons pourquoi je m'étais acheté une antenne.
Je pense que Véronique peut l'expliquer d'une manière beaucoup plus détaillée que moi.
Ah, il y a vraiment une raison?
Ah oui, il y a vraiment une raison. Il faut savoir que District 31 est une émission quotidienne. Je pense que pour tous ceux qui l'écoutent, là, vous êtes déjà au courant, qui amène des nombreux défis au niveau
là,
des délais pour produire la vidéo description. C'est une émission qui est produite je dirais pas à la dernière minute, mais presque à la dernière minute. Et actuellement, ils n'arrivent pas à respecter l'obligation législative là, de mettre de la vidéodescription à cause de ces délais-là. Par contre, puis ils ont été sensibilisés là, lors des derniers galas des prix Gémeaux, où on a justement mis sous les projecteurs le fait que c'était une des seules émissions qui, pour l'instant, ne respectait pas cette obligation-là. Et ils ont une intention de le faire. Il faut juste qu'ils trouvent la possibilité technique, considérant les délais qu'ils ont de le produire.
Si on est capable pour le bye-bye qui est livré à peu près à la dernière minute, on est
ouais,
capable pour District 31. Alexandre Bellemare, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur ta feuille, mais un bon coup 2019 au niveau technologique?
Il y en a tellement, je dirais. Écoutez, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ben, c'est drôle parce qu'on parle, en fait, du transport puis de la vidéodescription depuis tout à l'heure. Pour compléter par rapport à ça, au niveau du transport à Montréal, du moindre, il y a vraiment de belles évolutions qui ont été faites du côté du système de réservation du transport
oui,
adapté.
Oh.
On a finalement enfin la possibilité même de suivre, ben pas de suivre exactement, mais d'avoir une idée même avant l'heure confirmée de l'heure où va arriver le véhicule. Donc, c'est quand même très, très appréciable. Et enfin, terminer l'attente pour la réservation des déplacements intérieurs.
Ouais. Désolé là, pour les gens de Gatineau, je sais que ça va pas bien de ce côté-là, là, mais ici, là maintenant, on est vraiment heureux.
Il y a encore peut-être par contre, des petites lacunes du côté de l'accessibilité, mais franchement, ça s'est nettement amélioré.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose de fantastique de ce côté-là. L'autre chose aussi que moi je dirais aussi qui est vraiment exceptionnel aussi, ben ça doit être souligné en 2019, c'est la venue, l'arrivée enfin d'un décodeur de télévision
Elix.
Accessible. Ben oui,
ouais.
Elix. Une première au Québec, bien que ça existait depuis quelques années ailleurs au Canada et que c'était même déjà très bien implanté aux États-Unis.
Donc, avec, entre autres, Comcast, je pense que c'est celui-là, d'ailleurs, c'est à peu près le même. Hein?
C'est basé en fait sur Android.
Ouais.
C'est pas exactement une plateforme Android ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que c'est un terminal qui est bridé là, par Vidéotron. Mais,
il faut l'acheter ou on peut le louer?
Je pense que c'est davantage suggéré à l'achat. Là, par contre, j'ai pas tous les tarifs,
ouais.
Mais je pense qu'il préconise davantage l'achat. En fait, de ce que j'en sais, c'est que ce qu'il préconise, c'est que c'est un frais mensuel, mais après tant d'années ou tant de mois de paiement, l'équipement nous appartient.
Je sais pas si on a perdu un des deux, mais Véronique, es-tu toujours là?
Oui, je suis toujours là.
Parfait. Une autre, est-ce qu'on est encore dans le positif?
On peut rester dans le positif.
Oui.
Il y a une recherche, sur les signaux sonores, qui est un sujet qui a toujours été très, très chaud pour les gens qui ont une déficience visuelle, qui a été faite par le CIRIS, qui est un centre de recherche qui en réadaptation et en intégration sociale. Un rapport de recherche qui va sortir au début de l'année prochaine, mais qui vient mettre en lumière les différents dispositifs de signaux sonores qui existent et qui coexistent, je dirais, dans la ville de Québec, parce qu'on a trois modèles de signaux sonores là, qui sont utilisés dans la ville de Québec actuellement. Trois modèles. Le premier modèle qui a été implanté au Québec et qui était installé de façon importante dans la ville de Québec avant que la norme rentre en vigueur en 2005. Le nouveau modèle selon la norme, mais le modèle selon la norme, il y en a un avec un son directionnel et un son non directionnel. Donc, il y a trois modèles qui coexistent actuellement et l'objectif de la recherche était de savoir d'abord si c'était facile pour les gens la coexistence de différents modèles de recherche, mais aussi d'évaluer la sécurité et le sentiment de sécurité des gens face à ces différents signaux sonores-là. Et on a pu voir là, des résultats préliminaires il y a quelques semaines. Et les conclusions vont être intéressantes parce que ça va amener des pistes sur les choses que les gens préfèrent, les choses qui sont réellement sécuritaires sur les différents types de signaux sonores. Ça pourra peut-être permettre de faire évoluer ce qui existe sur l'ensemble du territoire québécois.
Ah, tant mieux, tant mieux. Antoine?
Oui,
encore du positif.
Moi, je veux parler d'une action positive qu'on a faite. Je pense que c'est comme beaucoup de dossiers qu'on travaille, ça part d'une action qui était plutôt négative, puis on travaille fort à la rendre de plus en plus positive. Le concept de rue partagée. Donc, ceux qui ne sont pas familiers avec l'idée, lors de la dernière mise à jour du Code de sécurité routière, le gouvernement a mis en place certaines réglementations qui doivent être incluses dans la mise en place de rues partagées. Le RAC, quand on avait en 2016 fait un mémoire sur la sécurité routière, on avait parlé de ça, parce que vous comprenez tous, j'imagine, le danger que peut représenter une rue partagée pour une personne en situation d'handicap visuel, une rue où vélo, automobile, piétons sont sur un même espace partagé. Ce que le gouvernement a mis d'avant, c'est en partie, 20 km/h maximum, puis le piéton a la priorité absolue. Mais il n'y avait rien d'autre de plus précis. Pour nous, c'est une source d'inquiétude. Ce qu'on a trouvé intéressant, par exemple, cette année, puis c'est pour ça que je l'ai mis dans les bons coups, c'est que l'organisme Vivre en Ville, qui est un organisme qui travaille au développement des collectivités, a commencé à travailler sur un guide d'application qui va être proposé aux municipalités sur comment bien implanter une rue partagée dans votre milieu. On les a contactés, on a commencé un beau travail en partenariat. On les a accompagnés, on a visité des rues partagées déjà implantées à Montréal et à Québec pour en faire l'analyse puis pour montrer à cet organisme-là tous les impacts que les aménagements comme ça peuvent avoir pour les personnes en situation d'handicap visuel. C'était très parlant, c'était un beau partenariat, puis on continue à travailler avec eux, on va pouvoir regarder leur guide avant qu'il soit disponible, on va pouvoir faire des commentaires, puis on va travailler à ce que, justement, les rues partagées qui s'implantent au Québec se fassent avec, dans le respect, puis en assurant la sécurité des personnes en situation d'handicap visuel.
Donc, une mécanique qui pourrait même être la même partout. Là. Donc, les rues sans trottoir ne seraient plus aussi dangereuses et on ne les éviterait plus. Moi, je me souviens, lorsque je cherchais des appartements, à cause du pas de trottoir, je ne voulais pas rester là, mais là, si jamais effectivement on pouvait modifier un peu cette anxiété-là, ça ouvre des portes. Alexandre, une petite minute et demie avant un peu de piano, là.
Oui, certainement. Ben, pour revenir au feu sonore, oui, effectivement, il y a de l'avancement qui se fait au Québec. Par contre, moi, j'ai surtout connu Keto Access, qui est une nouvelle technologie qui n'est pas malheureusement implémentée au Québec pour le moment. C'est une technologie qui permet d'actionner, par exemple, les feux sonores à l'aide d'une télécommande ou même d'un téléphone intelligent. Et franchement, moi, c'est une technologie que j'ai trouvée quand même très, très prometteuse et que malheureusement, on est encore loin de ça au Québec.
Sais-tu si c'est coûteux à implanter?
Ben, personnellement, j'ai l'impression que c'est même, à quelque part, peut-être même moins coûteux à implémenter que la technologie qui est présentement là. Il y a moins, peut-être, d'accessoires ou de trucs, en fait. Là, pardonnez-moi le mot « truc », mais qui doivent se connecter sur le feu de circulation. Et franchement, pour les utilisateurs, plutôt que d'escalader un banc de neige pour trouver le bouton en plein hiver, où des fois, le fait de trouver le bouton peut être désorientant après. Après ça, franchement, moi, honnêtement, j'ai été flabbergasté par cette technologie.
Mais ça nécessite un téléphone.
Non, pas nécessairement. Il y a des télécommandes exactement aussi qui sont disponibles. La grosseur d'une télécommande pour débarrer des portes de voiture. Là.
Okay.
Puis, dans le fond, on peut tout simplement appuyer sur la petite télécommande pour, par exemple, lancer la traverse, par exemple, nord-sud ou la traverse est-ouest, tout simplement. Non, le système est absolument... Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça absolument génial.
OK. Un disque que j'aime.
Je pense qu'il y aurait différents systèmes comme celui dont vient de parler Alexandre. Moi, je pense au Beacon, là, qui est aussi utilisable dans les stations de métro pour les Montréalais, qui pourrait être intéressante à regarder dans le futur parce que ça va demander de moins en moins d'installation sur les poteaux, mais ça va être beaucoup par des systèmes Bluetooth qui vont pouvoir fonctionner par télécommande ou par téléphone. Ça me semble que ça va être beaucoup plus performant parce que ça va donner plus d'informations que ce que peut nous donner un signal sonore pour l'instant.
Philippe Chinop ne savait pas beaucoup de quoi je parlais quand j'en ai parlé il y a 3 semaines, 1 mois, par exemple. Donc, on est loin de l'implantation de ça, mais effectivement que l'idée est bonne. Jean-Sébastien, j'aime beaucoup le Vince Guaraldi là, qu'on sort annuellement à cette période de l'année. Je nous oblige à au Tannenbaum et toi, tu choisiras la pièce que tu veux pour la deuxième partie. Et ça date de 65. Ils en ont vendu quelques-uns de ce Charlie Brown Christmas. Monsieur Bellemare, tu voulais juste nous dire que les bornes, les balises, c'est plus pour l'intérieur.
Effectivement,
hein?
c'est ça. Pour le moment, les beacons, du moins, c'est pas vraiment une orientation en intérieur. C'est pas quelque chose qui pourra, pour le moment, en tout cas, du moins, être utilisé en extérieur, surtout sur une grande intersection, pour vraiment remplacer un feu sonore. Ouais. On n'en est pas rendu là. C'est vraiment pour de l'orientation en intérieur. Attention à pas se mélanger avec ça.
Oui, effectivement, tu as raison, là, mais c'est un complément à ce que tu disais par rapport à l'autre système.
Justement, puisque tu as la parole, Madame la directrice du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03, j'ai nommé Véronique Vizina pour ceux qui se joignent à nous en chemin. Est-ce qu'il y a encore du positif ou...
Du positif, oui, mais c'est vraiment des dossiers, je dirais, plus mineurs, là. On pense, entre autres, on a réussi à gagner dans les hôpitaux de la région de Québec tout dernièrement l'accès à un service d'accompagnement lorsque les gens vont seuls à l'hôpital, ce qui n'était pas possible auparavant. Et là, maintenant, les grands hôpitaux du CHU de Québec ont émis une directive et une réglementation à l'effet que lorsqu'une personne vient à un rendez-vous à l'hôpital et qu'elle signifie son besoin d'accompagnement, maintenant, il y a un service structuré pour l'accompagner à son rendez-vous.
Donc, pas besoin d'appeler 24 heures d'avance pour réserver un bénévole. J'arrive à la réception d'un centre hospitalier.
À partir du moment où j'ai eu un rendez-vous, par exemple, prendre l'ophtalmologie, ouais. qui peut être assez régulière, on me donne mon rendez-vous de telle date à telle heure, ça signifie que je vais avoir besoin d'accompagnement. Et on me dit, tu te présentes à tel endroit et il va y avoir un accompagnateur qui va être là pour t'amener à ton rendez-vous et pour te ramener par la suite.
Mais c'est mineur, mais en même temps, je trouve que ça, c'est une belle sensibilisation. J'aime ça, ça. Antoine, peux-tu faire mieux?
Mon Dieu, je vais essayer. parlant de signaux sonores, c'est sûr que nous, comme organisme provincial, on peut pas vraiment... On laisse beaucoup à nos associations régionales de travailler avec l'application terrain des signaux sonores dans les municipalités, mais on travaille avec le MTQ pour s'assurer que la norme des signaux sonores qu'on a au Québec continue de s'améliorer. Donc, l'année dernière, on a quand même déposé 4 demandes de modification de la norme des signaux sonores. On a reçu une confirmation qu'une des modifications est acceptée. On a 2 modifications en attente qui on devrait avoir des réponses bientôt. Puis il y a une des demandes de modification qu'on a déposées où on nous a signifié qu'on aurait besoin de plus de tests avant de penser à l'appliquer, mais que ce serait envisageable éventuellement peut-être. Fait que c'est quand même des bonnes nouvelles. On travaille fort à avoir une norme de plus en plus efficace.
Mais je trouve ça exaspérant qu'on soit encore à débattre sur quel est le bon feu sonore. J'ai l'impression que pendant ce temps-là, on n'installe pas. Est-ce que ma crainte est légitime?
Non, il faut faire attention. Quand on parle de modification pour améliorer la norme, c'est pas de débattre sur tel ou tel signal sonore. On est plus sur des détails d'application qui vont faire qu'on facilite l'installation des signaux sonores, par exemple. Tu sais, je donne un des exemples de modification qu'on a demandé, qui est encore en attente, c'est de modifier la norme pour permettre d'installer des signaux sonores à toutes les intersections. Parce que comment elle est faite actuellement, la norme, quand il y a une intersection qui a un signal sonore, par exemple est-ouest, selon certaines indications de la norme, on peut en installer un nord-sud ou pas, dépendamment de beaucoup, beaucoup de facteurs. Là, on s'est dit non, là, on est rendu au moment où on en installe autant qu'on en a besoin. Fait que ça, c'est une demande qui est en traitement. Une demande qui a été approuvée, puis on est encore dans des détails d'amélioration tout le temps, d'aller mieux. Mais quand on... Parce qu'on va rencontrer ça de plus en plus, ce genre d'intersection-là à Montréal, où il va y avoir ce qu'on appelle une zone refuge. Donc, au milieu de la rue, il y a un endroit où un piéton peut être amené à s'arrêter. Le cas qu'on pense rapidement, c'est le SRB P9 qui va être implanté à Montréal, où sur P9, il va y avoir des embarcadères et des débarcadères d'autobus en plein milieu de la rue. Ben, nous, on s'est assuré que quand il y avait un signal sonore sur l'intersection, traversait, il y a un bouton de rappel de signal sonore sur la zone refuge pour qu'une personne qui décide de s'arrêter en plein milieu de la rue ou qui embarque l'autobus ou qui débarque l'autobus puisse rappeler le signal sonore.
Ouais.
Fait qu'on est vraiment sur des détails pour s'assurer que l'implantation de signal sonore se fasse de mieux en mieux.
Oui, c'est bien d'y penser d'avance.
Puis on va vivre le même défi à Québec avec l'implantation du tramway.
Oui.
Il va y avoir aussi des zones refuges qui vont devoir être implantées là, au milieu des intersections. Par contre, là où tu avais raison, Luc, par rapport aux signaux sonores, puis c'est pas lié à la norme. Je dirais que c'est plus lié à la volonté des villes ou à la capacité financière de celles-ci. Du moins pour la ville de Québec, actuellement, il y a énormément de demandes d'installation de signaux sonores qui sont en attente. Et la ville les implante progressivement, mais on parle de 10 à 15 signaux sonores par année, alors que les demandes sont beaucoup plus élevées que celles-là.
Moi, j'ai fait une demande ici au coin de la rue. Il n'était même pas question de changement de nom de la rue. La rue a eu le temps non seulement de décider, mais de changer de nom. Et le feu sonore n'est toujours pas installé. Je suis encore obligé de venir ici en transport adapté parce que le coin de la rue est assez dangereux.
Là, c'est vraiment les villes qui ont un rôle à jouer pour faciliter l'accès à cette installation-là.
Je te laisse finir la demi-heure, Antoine. Il te reste 3 minutes. Antoine, excuse-moi. Alexandre, tu peux nous en sortir 2, si tu veux.
Ben oui, certainement. Tantôt, on parlait de beacon, d'orientation d'intérieur, mais aussi, moi, cette année, j'ai beaucoup travaillé sur l'application Clou, qui est une application d'orientation en intérieur. En fait, j'ai surtout travaillé à la présenter, non pas au développement, mais vraiment à la présenter.
C-L-E-W.
Oui, exactement. Dans le fond, c'est sûr que c'est encore très, très primitif, mais dans le fond, ça permet à l'aide du capteur d'inertie et la caméra du téléphone, dans le fond, d'obtenir des instructions sur une route préalablement enregistrée. Donc, dans le fond, d'un point A à un point B préalablement déterminé. Et donc, lorsqu'on voyage à nouveau sur cette route-là, ça nous permet, en fait, d'obtenir vraiment des instructions et de se faire guider. Par contre, il faut quand même vraiment marcher très, très lentement et c'est encore assez primitif comme technologie.
C'est ça,
mais c'est un bel avancement.
Et c'est, il me semble que c'est celui-là que dans un de tes épisodes de balado, t'étais rentré dans le mur? Ça se peut-tu?
Je suis rentré dans le mur, moi.
Ben, tu sais, genre, parce que c'était pas droit, là, puis tu nous disais justement les limites de.
Oui, fait, c'est sûr que oui, ça se peut effectivement qu'on passe quand même assez proche des murs, effectivement, quand on le fait.
Et parlant de détection, tu sais, je me souviens qu'on a parlé du Buzz Clip cette année.
Oui. C'est pas nouveau de cette année, mais dans le fond, c'est un détecteur d'obstacles, donc basé sur l'ultrason. Donc, c'est un bel avancement technologique qui permet, en fait, de détecter des obstacles présents autour de nous lorsqu'on marche, donc d'une distance de 1, 2 ou 3 mètres. Et ça s'installe soit, dans le fond, ça se tient directement après la canne. Donc, ça se fixe après la canne, ça se met après un vêtement ou ça peut se tenir également dans la main. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser.
La canne électronique, c'est-tu répandu au Québec? Moi, j'ai vu ça une fois, ça venait d'Europe.
Oui, au Québec, on n'a pas grand-chose de ce côté-là. Canne électronique, c'est beaucoup plus des additifs. Puis c'est que, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que au niveau du décret, ça passe pas. Même, par exemple, comme les Buzz Clip, à moins d'avoir une surdité associée ou un handicap associé, c'est très, très difficile de se faire attribuer ça. Donc, c'est certain que ça peut causer certaines problématiques aux utilisateurs, même si c'est une technologie très, très intéressante d'acquérir celle-ci.
Quand même, on a réussi à faire une demi-heure positive et c'est pas terminé.
Encore.
C'est ça, c'est pas terminé. craignez pas, là, on va quand même se pencher sur des choses qu'on aurait souhaité voir peut-être plus dynamisantes et ce qui s'en vient pour 2020 avec Véronique Vizina, Antoine Perrault, Alexandre Bellemare, Luc Fortin et Jean-Sébastien Laliberté. On revient tout de suite.
Découvrez l'application Libre.
Avec notre petite revue de fin d'année, 23 décembre et 30 décembre, Véronique Vizina est directrice du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03, ça c'est à Québec. Antoine Perrault, directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Je dis qu'on ne se promène pas à pied aujourd'hui. Et Alexandre Bellemare, responsable du soutien technique et représentant chez Canadialogue, également un des principaux artisans du balado Canadialogue. Puis, Véro, est-ce qu'il y a un « ça me regarde » particulier? On est-tu en reprise pendant les fêtes? Ce chapeau-là, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Ben, il va y avoir deux émissions spéciales durant le temps des fêtes qui vont avoir lieu à la bibliothèque, à la Grande Bibliothèque et Archives nationales du Québec, où on va reprendre les meilleurs moments de l'automne.
Bon, excellent. Alors, tiens... comme le temps avance, peut-être des petites choses qui ont piétiné, qui n'ont pas avancé, qui vous ont déçu, qui auraient pu être peut-être, je sais pas, organisées différemment. Véronique, tu me disais avoir eu de la difficulté à en trouver dans ton coin.
C'est quand même extraordinaire. Finalement, j'ai réfléchi depuis les quelques minutes où on s'est parlé, puis il y en a un majeur, puis je dirais pas piétiné, je dirais un dossier qui recule, puis je pense que c'est une situation qui risque de se refléter dans d'autres régions aussi, l'accès au transport adapté. Mmh. non pas d'être admis au transport adapté, mais d'avoir un service de qualité au transport adapté. C'est un enjeu qui, cette année, dans notre région, s'est détérioré au fur et à mesure des mois. Les délais d'attente sont de plus en plus longs pour avoir accès au téléphone, même s'il existe des solutions par le web, c'est pas encore tout le monde qui est capable de l'utiliser. Les délais d'attente de notre voiture à la porte de chez nous, et même on est rendu où on fait des transports regroupés, puis à certains moments de la journée, on peut plus nous transporter, on nous propose des plages horaires alternatives. Donc, c'est un dossier critique sur lequel je pense qu'il va falloir se pencher à Québec, mais un peu partout au Québec, oui, parce que oui. les modifications dans l'industrie du taxi amènent les sociétés de transport adaptées à avoir de la difficulté à desservir les gens.
Sans te voir, Antoine, j'imagine que tu opines du bonnet.
Oui, j'opine beaucoup.
Ouais. La loi 17, je sais que ça fait... Ça a inquiété, là, au dépôt, en tout cas.
Bien, c'est sûr qu'au dépôt du projet de loi 17, où on ouvrait la possibilité du transport des personnes par différents types de compagnies, je vais dire ça comme ça, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, mais avec l'adoption du projet de loi 17, il y a quand même des choses qui ont été resserrées au niveau du transport des personnes handicapées en général, et notamment du transport adapté, qui peuvent nous faire croire que les choses vont s'améliorer, mais ça reste encore à voir parce qu'on n'a pas tous les détails et les travaux, notamment que la COFAN avait demandé pour qu'on se penche explicitement sur les modalités pour s'assurer d'un service de transport adapté efficace. Ouais. Il n'y a pas de comité de travail qui ont été mis en place encore.
C'est pour ça que c'est difficile de savoir si finalement c'est un positif ou un négatif, là. Antoine,
oui,
quelque chose qui piétine selon toi, selon le RAC?
Oui, un des dossiers qu'on a tenté de pousser, mais qui avance de peine et de misère, c'est la formation des programmeurs, analystes et autres développeurs du web. Ça fait longtemps qu'on se bat pour que l'accessibilité du web fasse partie du cursus obligatoire des personnes qui sont formées en développement web.
C'est bien bon, ça.
Comme programmeurs, analystes. En fait, il y en a plusieurs, là, des corps de métier qui vont être amenés à développer des sites web. Ça fait des années. On a eu un débouché, on s'est fait référer à des endroits, on est écrit à ces endroits-là, mais à chaque fois, on sent que ça tombe un peu à être mort. C'est pas la responsabilité de personne. Les universités, les cégeps sont autonomes. Ça, puis on tente, année après année, d'essayer de trouver qui appeler, comment les contacter, qu'est-ce qu'on peut faire.
Ouais.
Puis on avance année après année, tranquillement, mais c'est long. Et on trouve ça dommage parce que ça devrait déjà être fait.
Parlant de choses qui devraient être faites, je regarde Alexandre, puis je pense à l'application de Cogeco, qui, en tout cas, à la dernière nouvelle, n'était pas accessible. Je pense à la Presse Plus.
Il y en a plein.
Non, mais c'est parce qu'avant, c'était mieux. Puis là, ils ont comme fait des mises à jour. Puis... Bon, Apple, iOS 13, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Par contre, RC Audio, ça a bien fini. Enfin, bref.
Mais rappelons que Audio a quand même été lancé sans être accessible.
C'est sûr. C'est pour ça que je dis ça a bien fini. Ça a mal commencé. C'est comme le projet de loi 17, là, qui finalement... Bon, c'est ça, c'est un peu ça. Mais elle est superbe cette application-là, maintenant qu'elle est accessible. Ramène-nous avec du positif, Alexandre.
Oui, juste pour effectivement parler, tu l'as nommé effectivement La Presse, puis iOS 13. La Presse, je pense, c'est peine perdue pour le moment. Du côté d'iOS 13, oui, il y a énormément de bugs, il y a énormément de problématiques. C'est un des systèmes à date qui a été lancé qui se trouve quasiment être un des moins stables, malheureusement. Par contre, il y a eu beaucoup d'implémentations du côté de l'accessibilité. Entre autres, la possibilité de définir, par exemple, nos propres gestes sur VoiceOver, la possibilité de, contrôler, mais en anglais seulement, le téléphone de façon entièrement vocalement. Il y a eu beaucoup d'améliorations comme ça au réglage de VoiceOver. Et même maintenant, avec les iPhones plus récents, donc 7, 8 pour l'identification et plus récents, donc XR en montant, on a même la possibilité, en fait, d'utiliser ce qu'on appelle des tags NFC. C'est à peu près la grosseur d'une petite étiquette, un petit rond, 2 piastres, quoi. Et d'utiliser le tag pour écrire du texte ou en fait ben, le relire tout simplement. Ou même maintenant, pour ceux qui ont de la difficulté à utiliser des iPhones ou des smartphones, on peut tout simplement coder un tag. Dès qu'on touche avec le téléphone le tag, tchou, une action s'exécute, un appel se lance. Par exemple, moi, je n'ai collé un sur ma porte. Dès que je sors de chez moi, je colle le téléphone sur ma porte, tchou, la porte, ça se barre.
Oh wow!
Ouais, donc ça, c'est quand même assez magique de ce côté-là. Même si vraiment il reste des bugs à n'en plus savoir quoi en faire, entre autres des problèmes de prononciation dans les voix.
Ouais,
il y a beaucoup de glitches. Ouais, c'est épouvantable.
Oui, j'ai recouru à Madame de France.
Ouais,
depuis une semaine et demie, je
n'étais plus capable. C'est pas juste ça. Il y a des problèmes avec l'authentification Face ID, par exemple.
L'application Balado. Pour moi, en tout cas, j'ai perdu mon slider.
Il y a des issues un petit peu partout.
Par contre, Seeing AI, ça c'est positif. On l'a en français, je ne l'ai pas regardé encore.
Ouais,
est-ce qu'il est bon en français?
C'est positif en français. Pour les trucs de base, oui, c'est bien. Par contre, là où ça bloque un peu, c'est au niveau du français. Déjà, ils nous ont enlevé toutes sortes de trucs, comme par exemple la possibilité de lire de l'écriture manuscrite. C'est un petit peu plate de ce côté-là et même, par exemple, en anglais, on pouvait, par exemple, prendre une photo, se faire décrire une scène.
Ouais.
En français, si vous l'essayez, vous allez recevoir une belle erreur.
Ah.
Donc, honnêtement, puis ça, d'ailleurs, c'est une avancée d'iOS 13, peu importe la langue du téléphone, on a la possibilité de choisir séparément maintenant la langue pour chaque application. Donc, honnêtement, moi, je la remets en anglais.
OK.
Parce que ça me dérangeait légèrement, effectivement.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont essayé, Véronique ou Antoine, ou les deux, vous voyez assez pour ne pas avoir besoin de Seeing AI?
Moi, je l'ai déjà essayé, mais en anglais. Okay. Je n'ai pas essayé la version française.
OK. Antoine?
Moi, je n'utilise pas Seeing AI.
Ouais, ouais. Oh, ma gang de vous autres.
Parlant d'application Microsoft, il ne faut pas oublier aussi Soundscape, basé sur la réalité augmentée lors des déplacements, qui a fait beaucoup de progrès également cette année.
Ouais. Aïe, aïe, aïe. Toutes ces affaires-là, là, ça prendrait des 40 heures de formation. Soundscape, moi, ce que je trouve lourd, c'est les arrêts d'autobus, elle m'en donne 4, ça finit plus de finir.
On peut ajuster.
Ben, c'est sûr que tout est ajustable partout, mais...
Les heures de formation dont tu parles, Luc, écoute, ça m'amène sur un dossier qu'on pourrait peut-être travailler en 2020. Il y a énormément de technologies comme ça qui sont soit adaptées ou soit grand public, qui sont très peu promues par les centres de réadaptation et encore moins expliquer aux gens puis donner des cours aux gens pour qu'ils puissent les utiliser. Fait que ça pourrait être un beau dossier pour l'année prochaine de répertorier ces ensembles d'applications ou de technologies-là qui existent, mais surtout que les centres de réadaptation soient en mesure d'avoir du temps pour nous les montrer, puis nous les expliquer, puis qu'on soit capable de les utiliser.
Et en même temps, c'est tellement pas simple parce que, bon, pour profiter de certaines formations à INCA, je veux dire, tu as des semi-voyants, tu as des gens au téléphone, tu as des non-voyants, tu as des iPhone 6, des iPhone 8, des iOS. Et puis ça, c'est après ça. Là, tu t'en vas dans l'autre application et puis là, tu as comme un petit 2 heures pour faire tout ça. C'est vraiment pas comme monsieur, madame, tout le monde qui fait juste un airdrop puis que, tu sais, c'est quasiment bon, tu fais ça comme ça puis tout le monde le voit, tout le monde le fait. Puis Jean-Sébastien, c'est même pas de quoi on parle tellement c'est facile pour lui.
Non, puis il faut aller plus loin qu'un petit 2 heures. Ça va prendre beaucoup plus de temps que ça pour que les gens deviennent habiles avec ces technologies-là.
Antoine, tiens, vu que Véronique nous a lancé sur 2020 parce que le temps avance, as-tu une idée d'un dossier qui pourrait vous tenir occupé, vous autres, au RAC?
Les deux gros dossiers de l'année 2020 pour le RAC, ça va être encore et toujours l'accessibilité du web, si on s'en sauve pas.
Okay.
Et cette année, on y inclut l'éducation. Donc, on va travailler beaucoup en éducation pour s'assurer que les jeunes qui sont dans le réseau scolaire aient les outils appropriés pour réussir leur scolarité.
Ouais.
C'est un dossier qui, moi aussi, personnellement, me tient à cœur parce que j'ai une jeune fille maintenant là, qui a une dizaine d'années qui est à l'école et les difficultés, je vois aussi d'autres enfants qu'elle connaît qui ont une déficience visuelle, les difficultés sont nombreuses. L'accès, que ce soit l'accès à simplement avoir des livres en début d'année scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire ou avoir des examens en braille, par exemple, pour pouvoir les passer, il y a des difficultés énormes. Puis je dirais que Là aussi, il y a peut-être un certain recul dans les dernières années. Fait que je suis contente d'entendre que pour mon RAC, c'est une priorité pour la prochaine année.
Mais franchement, avoir un handicap visuel puis mettre des enfants au monde qui ont un handicap visuel, ça n'a pas d'allure.
Faut le faire, hein?
C'est une blague, mon fils, un handicap visuel. N'appelez pas à la maison, c'est correct.
Mais moi, j'ai fait mieux que ça. Je ne l'ai pas mis au monde, je l'ai adopté.
Oh, ben là tu viens de m'upstager. Écoute. Alexandre, peux-tu faire mieux?
Ben, nous autres, c'est
2020,
là,
qu'est-ce qui s'en vient, qu'on souhaite?
Ben, comme 2020, en fait, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est sûr que c'est de plus en plus d'accessibilité universelle, surtout, par exemple, au niveau des électroménagers, même si c'est loin d'être gagné. Ce qu'on souhaite aussi, c'est de pouvoir aussi former, on en parlait tout à l'heure, les utilisateurs à utiliser.
Ouais.
De pouvoir utiliser, par exemple, des électroménagers, des appareils du quotidien sans avoir à recourir à de l'aide d'une personne tierce. Quoique maintenant, avec ERA, pour ceux qui parlent en anglais, c'est tellement facilitant. Moi, j'utilise ça. Ils peuvent même prendre des photos, m'aider à traverser une rue. C'est magnifique.
Ah, tu me disais que tu ne veux plus t'en passer.
Oui, définitivement. English only.
Non, c'est sûr. Mais il y a des minutes de gratuite. Aussi, ça a évolué en 2019.
Oui, énormément.
De plus en plus de lieux où tu peux t'en servir. Il y a des partenariats entre IRA et que ce soit des aéroports ou...
Oui, définitivement, mais c'est sûr que ça demande de pouvoir être capable d'utiliser la technologie, de pouvoir parler en anglais, parce que c'est sûr qu'on est un petit peu limité, malheureusement, en français. Qu'est-ce qu'on souhaite également pour 2020, c'est l'amélioration de tous les assistants vocaux, Alexa, Google, et ça va vraiment offrir beaucoup de possibilités pour le contrôle des appareils connectés. On a même la possibilité aux États-Unis de demander un appareil qui dispose d'une caméra. Dis-moi qu'est-ce que je tiens dans mes mains. Et ça fonctionne déjà. On n'a pas ça, malheureusement, au Canada pour le moment, mais ça s'en vient au micro.
C'est parce que nous, au Canada, on le sait ce qu'on a dans nos mains.
Aux États-Unis, on a même des micro-ondes qui sont connectés. Ça se vend déjà, des cuisinières qui sont connectées. C'est juste qu'il faut importer. Puis c'est sûr que c'est compliqué encore. Mais je souhaite que ça s'en vienne au Canada. Et je souhaite également que les utilisateurs puissent aller chercher de la formation le plus possible. On peut également aider de ce côté-là.
Véronique et Antoine, en terminant, je prends la balle que nous lance Alexandre. Est-ce que c'est utopique de penser que la RAMQ pourrait fournir le téléphone intelligent, éventuellement? Ou c'est comme un peu comme les ordinateurs, on paye l'ordi, puis ils fournissent l'adaptation pour faire fonctionner l'ordinateur, selon vous?
C'est une bonne question. Je pense pas que utopique... Non, c'est pas utopique. Je pense que faut le faire comme il faut. Si on va de l'avant avec cette revendication-là, il faut le faire comme il faut. Il faut y aller tranquillement. Il faut établir des points avec la RAMQ et s'assurer que si un jour la RAMQ défrait un téléphone intelligent aux gens, ça se fasse d'une façon raisonnée, que les gens qui n'en veulent pas ou qui ne l'utilisent pas ne perdent pas d'accès à d'autres aides adaptées.
Ouais.
Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc, est-ce que c'est utopique? Je ne pense pas dire que c'est utopique. Je pense que ça peut être une revendication qu'on porte, mais si on la porte, il faut le faire d'une façon prudente et intelligente.
C'est parce qu'il me semble que le Trésor public, je pense juste au Tracker Breeze. Ça coûte tellement moins cher d'avoir un Blind Square ou un Soundscape, c'est juste que ça te prend un téléphone. Mais une fois que tu as ton téléphone, il y a plein d'aides qui ont meilleur marché que les aides spécialisées que le gouvernement nous octroie. Les scanners, Donc, un mot de la fin, Alexandre? Véro?
C'est certain que ça va... qu'il y a une grande réflexion à faire au niveau de l'intégration d'un téléphone intelligent là, dans le décret des aides visuelles. Mais je pense que Antoine l'a bien résumé. Il faut être vigilant quant à cette intégration-là pour pas que ça se fasse au détriment de d'autres aides qui peuvent être utiles dans d'autres circonstances. Puis, selon moi, c'est plus une aide complémentaire qu'une aide unique. Fait qu'il faudra toujours avoir accès aux autres aides adaptées qui sont plus spécifiques aux personnes qui ont une déficience visuelle et ajouter à ça un iPhone qui pourra être iPhone ou autre type de téléphone intelligent qui pourra être utilisé dans d'autres circonstances. Puis ça m'amène à me dire, puis je pense qu'Antoine va être d'accord avec moi, que pour 2020, s'il y a une table de travail qu'il faut qu'il soit mis en place et sur laquelle il faut se pencher, c'est la réouverture du décret des aides visuelles pour notamment faire cette réflexion-là, mais aussi réviser l'ensemble des aides qui sont octroyées par la RAMQ aux personnes qui ont une déficience visuelle, mais pas juste réviser l'ensemble des aides qui sont offertes aux personnes, mais aussi permettre à un plus grand nombre de personnes qui ont une déficience visuelle qui ont d'y avoir accès, parce qu'il y a encore beaucoup de restrictions pour lesquelles il y a certaines aides qui sont admissibles uniquement pour les travailleurs ou les gens qui sont aux études.
J'ai beaucoup, beaucoup apprécié le temps que tous les trois vous nous avez donné à moi et aux auditeurs. Je vous souhaite un bon deux semaines, un bon congé. Véronique Vizina du côté de Québec, Antoine Perrault, Alexandre avec moi, M. Bellemare de Canadialogue. Vraiment, là, merci beaucoup. Et on garde contact parce qu'on espère quand même avoir de bonnes nouvelles en 2020.
Ça m'a fait plaisir.
Avec plaisir.
Merci.
Jean-Sébastien, t'as choisi laquelle de M. Guaraldi?
J'ai choisi une version remixée. Christmas Time is Here. Christmas Time is Here est une de mes chansons préférées. Je ne m'étonne vraiment pas de la version originale de Charlie Brown. Et ça fait d'ailleurs trop longtemps que je l'ai regardée. Mais ça, je trouvais intéressant. Ça donnait une petite touche un petit peu plus actuelle, un petit peu plus rythmée. The Christmas Time is Here, version remix.
On aurait pu également, avec Alexandre, Véronique et Antoine, parler de ce montant doublé, cette allocation offerte aux chiens guides, aux chiens d'assistance. Probablement que c'est parce que ça a sorti cette fin de semaine. On l'a comme... Mais en fait, on ne peut pas l'avoir oublié parce que ça entre en vigueur le 1er janvier prochain. Mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle là, qui a été annoncée en 2019 et qui s'appliquera en 2020. Bon, on se tourne maintenant du côté de sport adapté. Pour terminer cet accès libre avec M. Tremblay. Dominique, bonjour.
Bonjour Luc, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très très bien, merci beaucoup. Bon, il fait tellement beau en plus. Faut te dire là que bon, on est très très handicap visuel. Alors, si jamais on a le temps, on va parler de des autres para-athlètes. Mais commençons du côté handicap visuel. Tiens, ski de fond, Brian McKeever qui continue de se dépasser et pourtant, monsieur avance en âge.
Oui, ben à l'âge vénérable en ski de fond de 42 ans, Brian McKeever en 2019 a remporté sa 20e médaille d'or lors de championnats du monde. Les championnats du monde avaient lieu à Prince George,
oui,
en
Colombie-Britannique. C'est vrai, c'est loin, donc, mais c'est vrai. C'était au Canada.
C'était donc pas loin de d'où il demeure. Il est originaire de la Colombie-Britannique. C'était avec son guide, laisse-moi être sûr que je prononce son nom comme il faut, Graham Nishikawa. Mm-hmm. Il a remporté l'or au 20 km. Il a complètement, encore une fois, dominé la course. Et puis ça, c'est quelques jours seulement après être revenu de Monaco, où il était en nomination pour l'athlète handicapé de l'année au niveau mondial. En 2019, c'est le prix lauréat pour tous les athlètes, toutes confondues, mais dans la catégorie personnes handicapées, Brian McKeever était en nomination. Malheureusement, il n'a pas remporté, mais c'est quand même, 2019 était une très belle année pour Brian McKeever.
Avant l'émission, je jasais dans le corridor avec Louis ici, qui va co-animer avec moi le show qui va suivre, il sera question de balado sportif. Et il me faisait penser que Priscilla a remporté une médaille d'argent du côté de Lima en septembre. Donc, une judoka handicapée visuelle qui s'est signalée. D'autres qui ont peut-être passé un peu sous le radar. Mac Marcoux, qu'est-ce qui arrive avec notre bon vieux Mac?
Ben, il est passé sous le radar parce que malheureusement, c'est un athlète de ski alpin, a été blessé au dos toute la saison hivernale en 2019. Donc, n'a pas pu participer au championnat du monde de ski alpin qui avait lieu au mois de mars. Donc, pour lui, ça a été une année sabbatique.
Ouais, ouais.
Il sera de retour en 2020. Et de toute façon, c'était l'année après les Jeux paralympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang. Donc, pour lui, c'était une bonne année pour se reposer. Et il va se remettre sur pied pour 2020. Il a été nommé sur l'équipe nationale de 2020 pour se préparer pour les Jeux paralympiques d'hiver de 2022 qui vont avoir lieu à Pékin.
Si je me souviens d'avoir lu que Guillaume Moilette, coureur, a été déçu par moment en 2019, ce n'est pas nécessairement une année à oublier pour Guillaume, là.
Non, l'année était quand même une année de préparation. L'année importante, c'est l'année qu'on commence d'ici 8 jours en 2020. Il se prépare pour les Jeux paralympiques. Au mois de novembre, il avait les championnats du monde qui avaient lieu à Dubaï. Donc, il a participé aux 1500 mètres dans la catégorie T13, donc pour les athlètes qui ont une déficience visuelle minime, donc la moins handicapée des trois catégories, puis les athlètes qui ont une déficience visuelle, qui ont participé aux 1500 mètres et aux 5000 mètres. Sa discipline de prédilection est le 5000 mètres. Mm-hmm. Il a terminé quatrième, mais c'était une année en dents de scie pour lui, qui a été ralenti par les blessures. Il a été devancé dans les 100 derniers mètres de sa course pour terminer en bas du podium. On espère que sa préparation va être optimale pour les Jeux de Tokyo. Il y a déjà ses plans en place pour l'année prochaine. Il prévoit deux camps en altitude, donc ça devrait aider pour sa vitesse maximale. Donc, il s'attend pour être sur le podium en 2020.
Goalball, l'équipe canadienne masculine est en reconstruction. Et avant que tu me poses la question, non, je n'appellerai pas du côté d'Ottawa. Équipe féminine, est-ce qu'on est qualifié pour Tokyo ou pas?
Donc, ils ont réussi à se qualifier en obtenant l'avant-dernière place disponible pour Tokyo. Il y avait les championnats... les qualifications, d'Asie au début du mois de décembre. La Chine et le Japon avaient déjà obtenu leur qualification dans des compétitions ultérieures, précédentes. Donc, la Corée du Sud a terminé deuxième, a obtenu la place pour l'Asie et ça a permis au Canada de se faufiler par la porte de côté et se qualifier. Quand même, le Canada chez les femmes est classé dans les 8 meilleurs au monde, donc on peut s'attendre à de bons résultats pour 2020. D'ailleurs, il y avait eu le championnat du monde au début de l'année, je pense que c'était cet été, il avait terminé troisième, manqué la qualification directe à ce moment-là.
Ouais.
Les Jeux d'Ima avaient fini troisième derrière les États-Unis et le Brésil. Donc, c'est pour ça qu'ils sont réussi à se qualifier par la porte de côté. Mais l'important, c'est d'avoir les billets d'avion. Le résultat, ça va être au Japon. On verra ce qui arrivera.
Ouais, le Brésil a connu une bonne année en goalball, tant féminin que masculin. Hockey sonore!
Bien, les compétitions commencent. Je te rappelle que le hockey sonore est très populaire au Canada. C'est aussi développé aux États-Unis. Les deux pays se sont rencontrés durant une série de trois matchs vers la fin du mois de novembre dans la capitale nationale. Le Canada a dominé ces trois matchs-là. Donc, le sport va continuer à se développer dans le futur. Ça se pratique aussi en Finlande, en Russie et en Angleterre. On espère que le sport va peut-être entrer aux Jeux paralympiques de 2026, peut-être 2030, on ne sait jamais. Ça prend une participation d'une dizaine de pays sur 3 continents. On ne sait jamais, on se croise les doigts. Ouais. Ça pourrait peut-être arriver.
OK. On n'a plus le temps. Alors, il y a plein de gens qui se sont signalés également dans d'autres sports, évidemment, là, mais on voulait surtout aujourd'hui faire un effort pour terminer l'année avec ce qui a touché les gens qui vivent avec un handicap visuel. Dominique, on se reparle en 2020 sans faute.
Ça me fait plaisir. Passez un bon temps des fêtes, tout le monde. Au revoir.
Alors, Jean-Sébastien?
Oui?
Il t'en reste une?
Il m'en reste une. Il nous en reste une.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, je serai là. Il sera question de balado dans quelques minutes avec J'entends des voix. On va parler de sport. Et comme Christiane est en vacances, ben on a tiré l'oreille de Louis pour qu'il vienne partager ses appréciations sportives. Merci, Eva.
Restez à l'écoute.